Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Binge audio.
Attention, cet épisode comporte des scènes et des descriptions qui peuvent être choquantes.
Salut, c'est Thomas Rozek. On ignore encore si on aura d'ici l'été 2023, comme l'a promis le chef de l'État, une loi sur l'aide active à mourir en France. Pour l'heure, une chose est sûre, ce débat sur l'euthanasie et plus généralement sur la fin de vie, c'est une longue et ancienne question. Un de ces débats de société sur lesquels il est toujours périlleux d'avoir un avis un peu trop arrêté. Un de ces débats aussi dont l'histoire est marquée par des moments symboliquement très forts. Ainsi, un soir de mai 2005, il y a 18 ans, les téléspectateurs français ont vu, pour la première fois, un homme mourir sur leur écran après avoir bénéficié d'une assistance au suicide. Cet homme, il était suisse, il s'appelait Jean Abischer, il avait 59 ans. Et pendant les derniers mois de sa vie, il a été accompagné d'une équipe de télé française de l'agence Kappa. Le film qu'ils ont tiré de ce moment, Le choix de Jean, on le trouve aujourd'hui facilement en ligne. Et c'est un des plus saisissants documents sur ce que signifie concrètement l'aide active à mourir pour celles et ceux qui y ont recours et pour celles et ceux qui les entourent. Et alors que le débat, on l'a dit, n'est toujours pas terminé chez nous, eh ben on a eu envie de savoir ce qu'il restait du choix de Jean. Bienvenue dans Programme B. Et pour le savoir, je suis allé discuter avec Stéphanie Malfette. C'est la co-autrice de ce documentaire avec le réalisateur Stéphane Villeneuve, qui est décédé depuis. Stéphanie n'est plus journaliste, elle est psychologue désormais, et elle n'a jamais pu oublier ni Jean, ni ce film, dont je lui ai demandé de me raconter le point de départ.
Le point de départ de ce film, c'est l'affaire Vincent Imbert, c'est-à-dire ce jeune homme de 19 ans qui a eu un accident de la route, qui s'est retrouvé tétraplégique, aveugle et muet. Et qui, à partir de l'an 2000, a demandé, envoyé des lettres. Il avait le pouce qui fonctionnait et l'oreille qui fonctionnait. Envoyé des lettres pour demander à ses médecins, à l'ordre des médecins, etc., pour demander une euthanasie. Il a eu que des réponses négatives. Il a fini par écrire au président de la République, Jacques Chirac, qui a dit qu'il n'avait pas le droit de lui donner ce droit lui-même. Et c'est sa mère qui... finalement a elle-même fait le geste, c'est-à-dire de lui injecter un produit qui aurait dû le tuer, qui ne l'a pas tué, qui l'a plongé dans un coma profond. Et c'est finalement son médecin qui a, collégialement avec d'autres médecins et avec Marie Imbert, la mère de Vincent, décidé d'injecter le produit qui lui a été fatal. Donc le point de départ, c'est ça. Ça se passe en début 2003. Ça suscite un débat de l'émotion en France, chez les politiques et chez les citoyens, et puis chez moi en tant que jeune femme. Ça me questionne sur, comme ça questionne tout le monde, sur finalement qu'est-ce que c'est que de mourir dans la dignité. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un droit que chacun peut s'octroyer? Est-ce que c'est le rôle du législateur de décider de la façon dont on va mourir? Est-ce que c'est le rôle des médecins? Est-ce que c'est une liberté individuelle? Est-ce que c'est un choix moral, social, politique? Bon, ça, c'est des questions vagues. Et puis, de façon plus intime, comme chacun, ça m'a fait me demander, moi, comment est-ce que je voudrais mourir? Comment est-ce que je voudrais que mes parents meurent, par exemple? Est-ce que c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le tournage. Est-ce que, par exemple, à la mort de ma mère, mon père, mon mari, est-ce que s'il était comme Jean, condamné à court terme. Est-ce que j'aurais envie qu'il vive le plus longtemps possible pour pouvoir tenir encore un peu plus sa main chaude dans la mienne ou satisfaire à sa volonté de mourir plus vite? Voilà. Donc, c'est à la fois des questions en tant que journaliste, en tant que citoyenne, des questions sociales et des questions intimes. C'est tout ça qui a fait que j'ai voulu faire ce film. C'est Stéphane Villeneuve, surtout, qui l'a réalisé. C'est lui qui tenait la caméra. C'est lui qui est allé jusqu'au bout du tournage, parce que moi, j'avais une particularité, c'est que j'étais très, très enceinte pendant le tournage.
Comment elle se fait, la rencontre avec Jean? Peut-être déjà, on peut expliquer qui c'est, ce fameux Jean qui donne son prénom au film.
Alors, Jean, c'est un homme suisse qui était atteint d'un cancer avec des métastases au cerveau et qui avait fait le choix d'une assistance au suicide. Rencontrer Jean a été très difficile. Donc moi, avec cette idée de film, j'ai commencé à regarder où est-ce qu'il y avait des solutions possibles qui n'existaient pas en France. Je me suis tournée vers la Suisse, où donc l'assistance au suicide était toujours autorisée. J'ai fait appel à une association qui s'appelle Exit. Il y avait deux associations qui pratiquaient l'assistance au suicide, Dignitas et Exit. Exit qui n'accueillait que des Suisses. Et Dignitas, qui a beaucoup plus fait parler d'elle, parce que c'est vers elle que se tournent les Français ou d'autres qui veulent avoir une assistance au suicide. Donc je me suis tournée vers Exit, je leur ai demandé si éventuellement ils avaient quelqu'un qui serait prêt à ce qu'on suive ces derniers mois, semaines, jours et derniers instants. C'était important pour nous de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Ça a été un choix compliqué, mais c'est un choix qu'on a fait. Le président d'Exit a cherché pour nous pendant plusieurs mois quelqu'un qui serait d'accord pour témoigner, jusqu'à ce que Jean accepte. Voilà. Donc je suis allée au printemps 2003. Rencontrer Jean, qui m'attendait au train à la gare de Fribourg. Et on ne se connaissait pas, donc on s'est cherché du regard. Et puis j'ai vu un monsieur avec une casquette et pas beaucoup de cheveux dessous. Je me suis dit, ça doit être lui. Je m'attends à trouver un monsieur d'un certain âge, parce que pour moi, si on meurt d'un cancer, il avait, je ne sais plus...
59 ans.
Pour moi, c'était très vieux, 59 ans. C'est à peu près l'âge que j'ai maintenant, mais pour moi, c'était très vieux. Donc je m'attendais à trouver un vieux monsieur en bas du train. Et je trouve un bonhomme qui ressemble à un rocker, avec un jean, une veste en jean, une casquette, une petite moustache et un œil bleu qui pétille. Et alors, je peux pas dire qu'il court sur ses deux jambes, mais ça a l'air d'aller, quoi. Et la première surprise, c'est ça, c'est qu'il a l'air d'aller. J'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui va mourir. On a pris un café à la gare, tous les deux. Ensuite, on est allé chez lui et puis on a beaucoup discuté de son choix. Et puis... on a fait connaissance, voilà, pour se faire confiance. Quand on pense assistance au suicide, quand on pense malade en fin de vie, parce qu'il était en fin de vie, il savait qu'il était en fin de vie, on pense à quelqu'un allongé sur un lit d'hôpital avec des perfs partout, un masque pour respirer et qui n'en peut plus. Et Jean, on ne peut pas dire qu'il n'en pouvait plus. Jean, il va au karaoké, Jean, il embrasse sa compagne, Jean, il chante dans sa voiture, Jean, il aime la vie, il va revoir sa maison d'enfance, il rigole avec nous, on boit du vin, on mange de la fondue, enfin voilà quoi. Donc on se dit pas que Jean, il est sur le départ. Quand on commence le film, on sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire qu'on commence à tourner, on voit Jean qui va plutôt bien. Il est dans un essai de chimio dont on ne sait pas si elle va marcher ou pas. Donc on ne sait pas si on va tourner pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. On n'en sait rien en fait. Mmh. Ça déjà, c'est un point important. L'autre point important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on était tous d'accord pour le filmer jusqu'au dernier moment. On était quelque part borné par le fait qu'on tournait jusqu'au dernier moment, mais on ne savait pas quand est-ce que ce dernier moment aurait lieu. Et donc l'idée, c'était que on a fait avec lui au tout début du tournage une interview au long cours qui émaille le film, en se disant que ça c'était fait. pour être très très concret et pratique. Et après, l'idée, c'était qu'on le suivait dans les moments importants et qu'on venait quand il fallait venir. Mmh. Voilà, nous, on était à Paris, lui, il était en Suisse.
Cette interview, justement, qui ponctue tout le documentaire, quels souvenirs vous en avez ?
Ça m'émeut. Il y a quand même des interviews qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Donc ça m'émeut. Je trouve qu'il est d'une philosophie, d'une sagesse. Il se décrivait comme un libertaire. Et c'est un libertaire. Je garde ce souvenir-là de quelqu'un de très, oui, de quelqu'un de très, très libre.
La première coupe d'année chez nous.
La première. Hein, et malheureusement la dernière.
Malheureusement la dernière. Alors,
santé tout le monde.
Hein. Alors, moi j'aimerais lever mon verre à la santé de Jean, enfin, c'est un mauvais mot, mais enfin, à la gentillesse avec laquelle Jean nous a accompagnés pendant 13 ans, 14 ans. Mm-hmm. On peut dire que c'est même plus un employé, c'est un collaborateur, mais ami. Santé Jean.
Santé. Puis, santé à tout le monde. Hein.
Depuis en haut, peut-être tu nous verras. Ouais.
J'espère. Voilà. Et moi, c'est aussi l'occasion de vous dire que je vous ai tous aimés. Il y a certains qu'on en soignait plus, d'autres moins. Mais en tout cas, vous allez rester dans mon cœur jusqu'à demain. Et j'espère après. Voilà. Merci à tous.
Si on prend justement par cette scène, donc on est au tout début du mois de janvier, quelques jours avant sa mort, et donc c'est le moment de la cérémonie des vœux dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, et c'est le moment où lui dit adieu, et tout le monde sait, tous ses collègues savent que c'est un adieu. Et Jean, il est plutôt joyeux, c'est beaucoup dire, mais Jean, il s'est approprié sa mort. Donc il n'est pas dans la lamentation, il n'est pas dans la peine, il est, je pense que le fait d'avoir fait ce choix lui a permis de vivre pleinement jusqu'à son dernier instant. Parce que c'était lui qui avait la clé. Et je pense que c'est ça, sa liberté, ça a été ça, et quelque part son je sais pas si c'est, on peut dire sa victoire, mais ce qui lui a permis de vivre jusqu'au bout, c'était ça. Donc pour lui, il n'y avait pas effectivement de lamentation, et il y avait des moments un peu surréalistes comme celui-là, comme celui où il va au karaoké avec sa copine, voilà. Et par contre, la lamentation, on la voit dans la voix et dans le regard des autres. Et c'est cette question-là que ça pose, cette scène-là. C'est est-ce que finalement, Jean, il se donne le droit de maîtriser sa mort, et est-ce que, comment est-ce que les autres acceptent ça? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de moi et tenir la main encore chaude de la personne que j'aime. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas?
Voilà, comme coucher.
Bon, pour vrai, gentiment.
Ouais. Ça peut durer une minute encore.
Oui. Adieu, mon loutou.
Au revoir.
Je t'aime.
C'est magnifique, là, c'est comme ça.
C'est vrai.
Ouais. Je sens que je vais m'endormir. C'est magnifique.
T'es tranquille.
Ouais, je suis tranquille. Hein. J'aurais jamais cru que ça fait aussi bien. J'aurais jamais cru que ça fait aussi bien.
Ouais. Tu dors déjà, loulou. Adieu, loulou.
Moi, j'étais pas là à ce moment-là. C'est Stéphane Villeneuve qui était là et qui y était allé avec un deuxième caméraman et ami à lui, parce que c'était aussi une séquence très très difficile à filmer. Faire le choix de filmer ce moment-là, je pense que d'abord pour moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé et pudique. Donc, moi, je me suis beaucoup posé la question de est-ce qu'on filmait ça ? Est-ce que c'était digne de filmer ça ou pas ? Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait montrer ou pas ? Et je ne vous cache pas qu'au départ, j'étais plutôt réticente. Et puis, je crois que pour Jean, c'était important qu'on le fasse. Et encore une fois, s'il avait dit « bah non, on ne le filme pas », on ne l'aurait pas filmé. Et je pense que pour lui, sa fin de vie a été un engagement. Et montrer sa fin de vie était un engagement militant très puissant. Et je pense que pour lui, c'était important qu'on aille jusqu'au bout. Après, il se trouve que cette scène, elle est aussi très surprenante parce que est très belle en fait. Voilà, paradoxalement, elle est très belle. Elle aurait pu ne pas l'être.
Oui, il y a là encore, je parlais de situation désarmante. Jusqu'au bout, ses réactions sont surprenantes, parce qu'il a cette phrase incroyable où il dit « j'aurais pas imaginé que ça aurait été aussi bien ». Le choix de mettre cette scène à la fin, mais de mettre au début l'après, qui est le moment où son cercueil quitte la maison et où on voit l'absence, en fait, c'est ce qu'on se figure, c'est l'absence une fois que nos proches nous ont quittés. Pourquoi cette construction, un peu en miroir dans le film ?
Cette scène, au début, quelque part, elle est beaucoup plus violente que la dernière scène. Parce que j'en ai plus là, effectivement. Enfin, et conseille ce qu'il y a sous cette housse mortuaire. Je crois que l'idée, c'est pas un film à suspense. Donc voilà, donc l'idée c'était de montrer quel était le sujet du film. Et le sujet du film, c'était la mort. Je pense que faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par « j'aurais jamais pensé que ce serait aussi bien », aurait enlevé une partie de son sens au film.
Comment est-ce qu'il a été reçu, ce film ? Parce que forcément, un tel sujet suscite des réactions.
Il n'a pas suscité beaucoup d'opposition, en fait. Il a plutôt suscité une adhésion. Alors, Jean est mort au début du mois de janvier 2004. Le film, on a terminé le montage 2-3 mois après. Ensuite, il est resté un certain temps sur des étagères, à peu près un an, à France Télévisions. Et il a été diffusé au moment de la première loi Leonetti, qui était la loi qui encourageait les soins palliatifs et qui mettait fin à l'abus d'acharnement thérapeutique. Donc il a été diffusé dans ce contexte-là. À l'époque, comme aujourd'hui, près de 90% des Français étaient favorables à l'euthanasie. Donc il n'a pas suscité vraiment d'opposition. Je pense que par contre, il a suscité, si je ne me trompe pas, c'était la première fois qu'on voyait, parce que depuis il y a eu pas mal de reportages et de films, mais si je ne me trompe pas, c'était la première fois qu'on voyait justement quelqu'un mourir comme ça. Ça a choqué certaines personnes, mais enfin voilà, j'ai pas reçu des lettres d'insultes, disons.
Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux encore à l'époque.
Les réseaux sociaux. mais ce qui est, c'était, je pense que ça a permis de faire avancer le débat parce que cette première loi Leonetti, qui répondait à l'affaire Vincent Humbert, en fait, n'était pas une réponse à l'affaire Vincent Humbert, parce que Vincent, par exemple, n'était pas mourant. Donc, il n'était pas question d'acharnement thérapeutique dans les derniers instants de quelqu'un. Donc, la loi répondait pas. La loi était un petit peu à côté. Donc, le débat restait entier. Et alors, il l'est un peu moins. Il y a eu de la deuxième loi Leonetti qui a quand même, elle, fait avancer les choses en permettant la sédation profonde, continue jusqu'au décès, qui se rapproche quand même déjà pas mal d'une assistance au suicide. Donc, je pense que le film a permis de faire avancer le débat, la réflexion, et surtout de lui donner une dimension très concrète, et pas seulement une dimension éthique, sociale, politique, religieuse, morale, mais très concrète. Et je pense que ça a permis à beaucoup de gens de voir très concrètement ce dont on parlait.
Alors, on est près de 20 ans après sa fabrication et sa diffusion à ce film. Qu'est-ce qui vous en reste comme souvenir, comme sensation de ce choix de Jean et puis de Jean lui-même ?
Beaucoup de tendresse, de la fierté et ma fille. ça vous fait rire, ça me fait sourire. Mais quand on est... C'est ce qui m'est arrivé à un autre moment de ma vie, quand on n'est pas loin de se dire qu'on peut mourir, et ce qui était le cas de Jean, voir que la vie continue, que d'autres prennent la suite, c'est quelque chose d'important. Et moi, quand Jean est mort, donc j'ai accouché 15 jours après, et voir ma fille, pour moi, c'est quelque chose de très fort aussi, pour elle, pour ce qu'elle est de magnifique, mais aussi par rapport à Jean. Ce qui me reste aussi de ce film, c'est Stéphane Villeneuve, avec qui j'ai réalisé le film, qui aujourd'hui n'est plus là, qui est mort à Mossoul en 2017. Et voilà, il me reste ce film qu'on a fait ensemble.
Et sur la question politique, sociale, éthique de la fin de vie qui ne cesse de revenir dans le débat public, qui est encore revenu dans le débat public cette année. Comment votre réflexion, vous, s'est nourrie peut-être de cette expérience très particulière qui a été d'accompagner en partie Jean dans cette dernière séquence de sa vie ?
Quand l'idée du film est née, j'étais un peu dans une idée combative de défendre Vincent Humbert, sa mère, et l'idée que chacun puisse mourir comme il le souhaitait. À l'époque, le film m'a fait être un tout petit peu plus modérée, avec justement cette idée de quand j'interviewais Dan, sa compagne, et de me dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle voudrait ? Est-ce qu'elle voudrait qu'il reste encore un peu plus longtemps ? Aujourd'hui, c'est la dimension de liberté qui me paraît fondamentale. Et je trouve que ça serait bien qu'aujourd'hui, en France, chacun soit libre de mourir dans la dignité. Mais la dignité, c'est beaucoup de choses. Ça peut être de vouloir choisir son moment. Ça peut aussi être de pouvoir mourir de façon digne dans un hôpital avec des soins de service palliatifs. Je pense là à des grands hôpitaux parisiens qui reçoivent beaucoup de malades, donc numériquement beaucoup de gens meurent. Il y a un service de soins palliatifs de 10 lits. Sinon, il y a des unités de soins palliatifs mobiles qui vont de lit en lit dans les services. Et par exemple, le week-end, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc, s'il manque de bol, vous mourrez le week-end, vous mourrez tout seul. J'ai été journaliste pendant 25 ans pour écouter les autres. Parce que j'aime ça, parce que j'aime écouter les histoires des autres. Et puis je pense que j'ai une certaine dose d'empathie qui fait que les gens n'ont pas trop de mal à me parler. Et il m'est souvent arrivé de dire à quelqu'un, vous savez, là, vous êtes en train de me dire quelque chose, mais derrière moi, il y a 1 million de personnes qui vont l'entendre. Est-ce que vous êtes prêt à ce que 1 million de personnes entendent ce que vous êtes en train de me dire ? On aurait pu dire la même chose pour Jean. Est-ce que vous êtes prêt à ce que 1 million de personnes vous voient mourir ? Et les gens souvent me regardaient en me disant, c'est bizarre, vous n'êtes pas comme les autres. Et à un moment, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais plus envie d'écouter les gens que d'en faire des films, et que ce qui m'intéressait, c'était plus le tournage dans la dimension d'aller écouter les gens que de faire un film derrière. Et voilà. Donc, j'ai préféré effectivement ouvrir un tout petit cabinet où on n'est que deux et où on écoute.
Le choix de Jean, le documentaire de Stéphanie Malfette et Stéphane Villeneuve, vous le trouverez notamment sur le YouTube de l'agence Kappa. Merci à Stéphanie Malfette pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.